Alors, frères et sœurs, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant, comme nous le faisons chaque dimanche, et c'était vraiment une bonne chose, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous conduire dans la compréhension et aussi dans la mise à pratique, parce que ce n'est pas le tout de comprendre. L'essentiel, c'est de mettre en pratique ce que le Seigneur va nous dire au plus profond de notre cœur. Alors, prions. Oui, Seigneur, c'est vraiment une grâce que tu nous rassembles dimanche après dimanche dans un lieu de culte avec des frères et des sœurs pour écouter ta parole. C'est vrai, Seigneur, que nous pouvons le faire chez nous chaque jour. Tu es toujours présent, Seigneur, et tu es toujours disponible à entendre notre prière. Tu es toujours présent, Seigneur, pour que nous puissions marcher à ta lumière aussi. Alors maintenant, Seigneur, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire des textes et nous avons vraiment besoin, Seigneur, que tu nous permettes de comprendre et c'est à toi, cher Saint-Esprit, que nous nous adressons pour que tu fasses cette œuvre, que nous soyons, Seigneur, pas les mêmes lorsque nous allons sortir de ce lieu de culte parce que tu nous auras parlé. Tu auras parlé à chacun d'entre nous au plus profond de son cœur et nous te bénissons pour ce que tu vas faire maintenant. Amen. Je voudrais vous lire d'abord un seul verset que je prends dans Romains chapitre 8 et c'est le verset 2. Tout à l'heure, il y aura une lecture un petit peu plus conséquente, mais là c'est le thème que j'ai envie de développer devant vous. Donc Romains chapitre 8 verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tentation. Ce n'est pas un thème très léger. Mais on ne peut pas ne pas l'aborder, ce thème, parce que le Nouveau Testament en parle très souvent. Pour montrer aux croyants trois choses. La première, c'est ce qui est à l'origine de la tentation. La seconde, c'est pour nous dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants lorsqu'ils sont confrontés à la tentation. Et la troisième, c'est pour nous assurer que la victoire est toujours possible. Si quoi ? Si nous utilisons les bonnes armes pour y résister. Alors pour commencer, je dirais trois choses. Premièrement, la tentation fait partie de la vie chrétienne. Personne n'y échappe. Pas même Jésus lorsqu'il était sur terre, parce qu'il avait pris la condition de l'homme. La deuxième chose, c'est être tenté, ce n'est pas péché. C'est succomber à la tentation qui est une faute. Alors on le dit, on a l'habitude de l'entendre, de dire « oui, je sais ». Il n'empêche, frères et sœurs, que l'ennemi essaie de nous déstabiliser lorsque la tentation se présente en nous susurrant « tu te dis chrétien ?» Mais tu vois bien que tu es comme les autres. Tu ne vaux pas mieux que les autres. La troisième chose, c'est que c'est l'ennemi de notre âme qui nous tente. Pourquoi faire ? Pour essayer de nous détourner de Dieu, pour essayer de rompre notre relation avec Dieu. Succomber à la tentation, c'est donc faire le jeu de Satan. et ce n'est pas une peccadille, car cela peut avoir des conséquences très graves. Est-il utile de préciser que je ne parle pas de succomber à un carré de chocolat ou à une tartelette à la fraise? Quel est le mécanisme de la tentation? En 4 versets, Jacques nous montre l'origine de la tentation, et je cite « Que personne, en présence de la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. » Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal, il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Voilà plutôt ce qui se passe. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. Or, le mauvais désir, si nous lui cédons, conçoit et donne naissance au péché. Celui-ci, à son tour, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort spirituelle, bien sûr. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Jacques 1, 13 à 16. Les mauvais désirs dont parle Jacques sont essentiellement engendrés par la vue. Les publicitaires, les commerçants, petits ou grands, et quoi qu'ils vendent, se servent de la vue pour déclencher le désir chez les consommateurs. C'est la vue qui est directement en cause dans le vol, dans l'envie, dans l'adultère, dans la concupiscence, dans la pornographie. La mémoire peut aussi faire naître des mauvais désirs. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients qu'ils jouent avec le feu lorsqu'il s'autorise à regarder n'importe quel film ou programme télé, à lire n'importe quel roman sans penser que les images ou les phrases dégradantes s'impriment dans leur mémoire et leur esprit et peuvent les entraîner dans des tentations dont ils ne comprennent pas l'origine. Comprenons bien que ce n'est pas par lyrisme que Paul a écrit aux Philippiens la chose suivante. Que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Ça, c'est Philippiens 4, 8. Les images sales dans lesquelles on se complaît n'ont jamais engendré des pensées pures. Le Nouveau Testament ne se contente pas de décrire la tentation. Il montre que Dieu ne nous abandonne pas dans la tentation. En effet, il nous fait des promesses et nous fournit des armes spirituelles. Et en voilà une promesse. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Ceci est important à comprendre. Paul n'envisage jamais que certaines tentations seraient si fortes que l'homme ne pourrait pas y résister. Ce serait très pratique si ça n'était pas ça. Ah, ça a été plus fort que moi. Non. L'Esprit Saint nous dit, par l'intermédiaire de Paul, que Dieu permet que le croyant puisse résister à toutes les tentations, aussi fortes soient-elles. Et voilà une arme défensive. Veillez, nous dit Marc 14, 38, c'est Jésus qui parle. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Jésus qui nous parle de cette arme efficace qu'est la prière et dont il s'est servi lui-même. Accordons-lui l'importance à cette prière qu'elle avait pour Jésus. Autre promesse importante, Dieu est avec nous dans la tentation. Voilà ce que dit Apocalypse 3:10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Frères et sœurs, parmi les épreuves dont parle ici l'auteur de l'Apocalypse, il y a les tentations. Voilà ce que nous dit la parole. Je résume ce que je viens de dire. Le Nouveau Testament démontre le mécanisme de la tentation. Nous sommes donc prévenus. Il explique comment lutter contre la tentation. Cela devrait nous aider. Et il nous dit que Dieu n'abandonne pas les croyants dans la tentation. Et c'est drôlement bon de le savoir. Alors je pose une question. Comment se fait-il que les croyants succombent encore aux tentations? Eh bien, Paul l'explique très bien. En Romains 7, 14, 23, que je vais lire maintenant. Romains 7, 14, 23. Nous savons, dit Paul, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, je suis vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne, cette loi. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans le texte que je viens de lire, au verset 23, Paul parle de deux lois qui s'opposent et se font la guerre en lui. La loi de Dieu à laquelle il prend plaisir et la loi du péché dont il est captif. Ce que Paul dit de lui, nous l'avons vécu aussi. Même lorsque les croyants veulent obéir à la loi de Dieu qu'ils aiment, ils sont incapables de vaincre la loi du péché qui est en eux s'ils combattent avec leurs propres armes. Et ils finissent, à plus ou moins long terme, par succomber aux tentations. Alors, frères et sœurs, cette constatation serait désespérante si Paul en était resté à ce constat d'échec programmé contre la tentation. Mais l'apôtre va nous faire prendre conscience de plusieurs faits réels qui, si nous les comprenons bien, vont nous permettre de résister à la tentation. Le premier fait est décrit en Romains 6:6, que je lis maintenant. Écoutez tous les mots. Nous savons, c'est pas peut-être, nous savons que notre vieille nature, héritée du premier Adam, que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, Jésus, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Paul nous invite ici à prendre au sérieux ce fait. Si nous croyons que Christ a été crucifié pour le pardon de nos péchés, nous devons croire aussi que notre vieille nature héritée d'Adam est morte avec lui et que le péché n'est plus notre maître. Cette prise de conscience nous permet de comprendre un autre fait, aussi important et décisif. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons désormais à Christ. Paul le dit clairement en Galates 2:20. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous nous approprions cette vérité, lorsque nous la confessons à Dieu dans notre prière personnelle, lorsque nous remercions Dieu pour cette grâce inouïe que Dieu a fait sa demeure en nous, nous n'avons plus de mal à comprendre que notre esprit est uni avec l'esprit de Christ. Et c'est cette vie de Christ en nous qui va nous permettre de résister à la tentation. Jésus était parfaitement uni avec son Père. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais succombé aux tentations qui ont été aussi fortes et nombreuses que les nôtres. N'oublions jamais ça. Hébreux 4:15 le dit bien, il a été tenté en toutes choses comme nous les hommes. Eh bien, aussi longtemps que nous serons unis à Christ, les tentations ne pourront pas nous vaincre. Cette union avec Christ, je la comparerais volontiers à une armure, au temps où les armes les plus redoutables étaient les flèches des arcs. Aussi longtemps que le soldat gardait son armure, aucune flèche ne pouvait le blesser, même si elle s'écrasait, cette flèche, sur son armure. Mais si, pour une raison ou pour une autre, il ôtait son armure, c'était vraiment à ses risques et périls. Tout à l'heure, je parlais de la guerre que se livrent deux lois à l'intérieur de nous, la loi de Dieu et la loi du péché. En Romains 8:2, que je vous ai lu en entrée, Paul parle de ces deux lois en d'autres termes. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et la loi du péché et de la mort. Et il écrit ceci, je le répète, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous presse d'accorder aux mots la valeur qu'ils ont. N'édulcorons pas ce que Paul dit ici, parce que c'est la vérité. Paul n'a pas écrit ces lignes pour se faire plaisir, mais pour faire comprendre aux chrétiens qu'ils seront non pas épargnés par les tentations, mais vainqueurs des tentations, aussi longtemps qu'ils auront conscience que Christ vit en eux et qu'ils restent en communion avec lui. Le danger qui guette les chrétiens, c'est de croire sincèrement qu'avec une volonté farouche, ils ne succomberont jamais aux tentations. Certes, la volonté n'est pas à négliger ou à mettre de côté, mais vous le savez bien, nous le savons tous, la volonté, elle est fluctuante. Elle dépend souvent du contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous ne pouvons pas nous fier à elle. La seule force, je répète, la seule force, il n'y en a pas d'autre, la seule force qui permet aux croyants de résister aux tentations, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre, car cette force-là, elle est immuable. Elle ne change pas. Alors c'est vrai que l'expression « loi de l'esprit de vie », ça n'est pas facile à comprendre. Alors pour permettre de comprendre le mécanisme de la victoire, je propose de remplacer le mot « loi » par le mot « puissance ». Et voilà ce que donne ce verset. « La puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la puissance du péché et de la mort ». Approprions-nous cette promesse, je la répète. La puissance de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la puissance du péché et de la mort. Frères et sœurs, cette puissance n'est pas extérieure à nous, elle est en nous. Elle ne vient pas de nous, elle vient de Christ qui vit en nous. Elle est à notre disposition lorsque la tentation se présente et elle nous est donnée pour que nous nous en servions. C'est la conscience de cela qui fait que nous pouvons résister aux tentations. Ne nous lassons jamais de rendre gloire à Dieu pour cette œuvre de libération. Avant de repasser la parole à Daniel, je voudrais ajouter un dernier point. Et si je le place à la fin, c'est qu'il est important de le comprendre et surtout de le mettre en pratique. Avec la venue de l'hiver, vous, fidèles téléspectateurs comme moi, vous avez vu que la télévision diffuse une publicité pour des pastilles contre les maux de gorge. Et le message est le suivant, à traiter dès les premiers symptômes. Eh bien, frères et sœurs, il en va de même avec la tentation. Si nous la laissons s'installer dans notre esprit, si nous ne prenons pas immédiatement les armes spirituelles dont j'ai parlé plus haut, la lutte intérieure va durer. Elle va nous perturber. Elle va envahir notre esprit. Et il y a de fortes chances que nous n'en sortions pas vainqueurs. Car à partir du moment où nous discutons avec la tentation, elle gagne irrémédiablement du terrain. La tentation, c'est comme le mal de gorge. Ça se traite au premier symptôme. Père Céleste, il y a les paroles d'homme, et puis il y a la parole que tu veux graver sur les cœurs. Eh bien, c'est cette parole, Seigneur, qui doit compter, la seule qui doit compter. Et je te prie, cher Seigneur, de la faire de la graver sur chacun de nos cœurs.